Bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à ce café scientifique, scientifique et académique, je dirais plus, puisque ce café découle de nos relations privilégiées que nous avons avec les médias de la région par l'intermédiaire de l'Académie du journalisme et des médias de l'Université de Neuchâtel, dont nous avons la chance d'avoir ici un des enseignants, en la personne de Luc Debrenne à côté de moi. Donc ce café scientifique consacré à la diffusion de l'information, vous n'êtes pas sans savoir qu'évidemment Internet a complètement bouleversé nos vies et en particulier nos modes de travail et surtout le métier de journaliste, ce dont on aura sûrement l'occasion de débattre ce soir. Comment est-ce qu'il l'a modifié? Comment est-ce qu'on appréhende toutes ces multitudes de sources d'informations dont nous disposons actuellement? Voilà, ce sera un peu les sujets que nous allons débattre. Alors, sans plus attendre, conformément à une tradition bien établie maintenant dans les cafés, j'inviterai chacun des intervenants à se présenter brièvement et à indiquer la raison pour laquelle il a été invité ici. Voilà, je vais peut-être commencer par Luc Debrenne à ma droite.
Bonsoir à tous. Donc, je suis journaliste à l'Hebdo, à Lausanne. Je m'occupe de culture, beaucoup de photographies, d'images, d'enjeux numériques et autres. J'ai été un peu plus précisément invité à cause d'une autre activité que j'ai. Je suis de formation historien de l'art. De temps en temps, j'organise des expositions. Et il y a maintenant longtemps, 4 ans, j'ai été le curateur d'une exposition au musée de l'Élysée à Lausanne qui s'appelait « Tous photographes ». On va peut-être en parler un petit peu après. Et puis, je suis par ailleurs enseignant en culture visuelle à l'AJM, à l'Académie du journalisme et des médias, ici même. Voilà. Et je suis très content d'être ici.
Merci beaucoup. Je propose maintenant à la personne à ma gauche, Gabriel Sigrist.
Oui. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Gabriel Sigrist. Donc moi, j'ai une formation d'ingénieur en informatique. J'ai fait d'ailleurs une partie de ma formation ici à Neuchâtel. J'ai ensuite viré pour le journalisme et j'ai travaillé comme journaliste au Nouveau Quotidien, qui est ensuite devenu le quotidien Le Temps. Et après 2 ans passés au Temps, où je m'occupais d'économie et de nouveaux médias et de tous les aspects Internet et nouvelles technologies de ce quotidien, j'ai monté un magazine en ligne avec un autre journaliste du Temps qui s'appelle largeur.com. Et ce magazine a été fondé donc en 99, un des premiers magazines en ligne francophones. Et ce magazine est devenu ensuite une agence de presse qui s'appelle aujourd'hui Large Network. Et donc, si effectivement l'Internet a modifié notre manière de consommer de l'information et notre manière de pratiquer le journalisme, il a aussi complètement changé l'économie des médias. Et s'il y a peut-être un des éléments que je pourrais apporter ici, c'est l'aspect économique, puisque fabriquer une entreprise rentable qui trouve un modèle économique viable en se basant sur Internet, c'est peut-être ce qu'il y a de plus difficile quand on est éditeur. Donc les éditeurs ont été nombreux à lancer des initiatives, à lancer des sites. Nous, on a été très tôt sur ce marché, mais on a aussi été très tôt à ne pas réussir finalement à trouver un modèle économique adéquat, raison pour laquelle notre agence de presse aujourd'hui commercialise du contenu essentiellement à des éditeurs traditionnels et fabrique aussi des magazines pour des institutions et des entreprises, pour les PFL, pour des grandes institutions et des grandes entreprises suisses et internationales. Donc tout ça pour dire que l'économie de la presse online, même si les sites comme Huffington Post sont vendus à plusieurs centaines de millions, le modèle lui-même n'a pas encore été complètement trouvé. Et je pense que ça peut être un des éléments abordés aussi ce soir.
Enfin, Baptiste Unkeler.
Oui, donc Baptiste Unkeler, je suis actuellement étudiant en droit, mais je suis surtout ici parce que je fais partie du Parlement des jeunes. Et on a créé en fait une radio en ligne, une web radio du nom de Neuchvox, et qui émet 24 heures sur 24 avec des différentes émissions. Et en fait, on a pu découvrir par ce projet comme quoi il était facile pour les jeunes de pouvoir s'exprimer, mais aussi pour n'importe qui, de pouvoir s'exprimer à travers Internet. Et tous les gens peuvent, grâce à ça, être atteints, être touchés par nos commentaires ou nos informations. Et voilà, donc ça permet de donner une vision jeune de notre région. Et vraiment, ça montre la facilité avec laquelle on peut s'informer, avec laquelle on peut donner des informations, tout en sachant qu'on ne peut pas toujours savoir d'où viennent les informations et si elles sont fiables.
Voilà, merci beaucoup après ce premier tour de table. Donc, je l'ai dit en préambule, avec Internet, jamais la production de textes, de vidéos, de fichiers audio n'a été aussi nombreuse. L'ère du partage et des échanges semble définitivement installée, des échanges tous azimuts, des échanges peer-to-peer, de pair à pair, individu à individu, sans forcément passer par le fil de médias, ce qui se paye par un sentiment, et là vous me contredirez peut-être, mais j'ai un sentiment vraiment de baisse de qualité généralisée, c'est-à-dire on a évidemment une profusion d'informations, et encore faudra définir ce qu'est une information, une quantité de données disponibles sur Internet, mais si on regarde un peu au hasard les forums, on s'intéresse un peu aux commentaires, on voit que c'est souvent d'une banalité, je dirais, assez affligeante, sans parler de l'orthographe et de la grammaire, et ni même de la qualité de certaines images que les gens postent et des vidéos que les gens postent, en se prenant un peu tous pour des grands cinéastes. Enfin, c'est un peu le sentiment que j'ai, que l'on plonge vraiment dans un monde brouillon. C'est pour moi un peu l'ère du brouillon tous azimuts qui est arrivé sans produit terminé, sans produit fini. Et puis, à l'inverse, on voit des situations où cette ouverture permet à tout un chacun de s'exprimer peut s'avérer capitale. On a tous vécu le printemps arabe par médias interposés. Cette révolution a révélé l'importance des réseaux sociaux dans l'organisation des manifestations. J'ai entre autres souvenir de la chaîne Al Jazeera qui mettait toute une équipe rédactionnelle à l'affût de tous les posts qu'il recevait des gens sur le terrain qui vivaient ces révolutions et qui témoignaient autant de témoignages par médias électroniques interposés. Donc, c'est vrai que nous sommes en face d'un dilemme, un peu, quand on consomme de l'Internet, où trouver la vérité dans tout cela et quel est véritablement le rôle du journaliste. Alors, comme première question que j'avais envie de poser avant de lancer la discussion dans la salle, c'est qu'est-ce que, selon vous, qu'une information ? Comment est-ce qu'on peut la définir ? Est-ce qu'il y a une rigueur à établir ? On se souvient dans les écoles traditionnelles de journalisme qu'on distinguait le fait du commentaire. C'était un peu la base du traitement de l'information. Qu'en est-il aujourd'hui ? Alors peut-être Luc.
Si je peux répondre en prenant le contre-pied et en disant que je ne suis pas d'accord avec ce que vous avez dit pour ce qui est de ce côté fourre-tout, mauvaise qualité, je crois que ce n'est plus un critère déterminant. Une bonne définition pour moi de l'information aujourd'hui, c'est précisément une photo de mauvaise qualité qui arrive de Damas ou d'une ville syrienne où il y a une répression terrible et où des images arrivent de manière quasi miraculeuse par Twitter avec une dose de courage, vous le savez, elle aussi extraordinaire, et qui nous arrive. Et ça, c'est une information capitale, importante, où le critère qualitatif n'est juste pas déterminant. J'aurais même tendance à dire que plus la photo est pixelisée, mauvaise, plus elle a en quelque sorte cette aura d'authenticité, plus cette esthétique pauvre, pour parler comme l'arte povera, plus elle est mal foutue, plus elle est vraie, plus elle est authentique parce qu'elle provient d'une vraie nécessité d'information. Donc voilà, c'était juste un peu de dialectique pour prendre un peu le... Mais je pense que c'est un bon exemple de qu'est-ce que c'est qu'une information aujourd'hui à Internet. C'est une voilà, il y a des quelque chose qui doit être rapide, essentiel, et à laquelle évidemment il manque une part. On va peut-être en parler. C'est celle de la vérification. Aujourd'hui, la vérification des faits sur Internet, avec cette rapidité qui est obsessionnelle, vient après une parution. Évidemment, ça, c'est très problématique. Mais il faut peser, pondérer, voilà, l'importance d'une image qui arrive très vite, qui dénonce quelque chose, qui est importante, et sa vérification, on doit corroborer, et ça, c'est plutôt notre boulot à nous. Voilà.
Moi, j'ajouterais sur ce qui a été dit sur la qualité. Je crois qu'il y a, toujours eu... Il faut pas confondre les outils et le contenu. Donc, bien sûr, il y a des sites de bonne qualité, de l'information de bonne qualité qui circulent sur Internet. Et de la même manière, il y a des médias traditionnels qui diffusent du mauvais contenu. Et il y a des mauvaises chaînes de télévision, il y a des mauvais journaux, il y a des journaux mal écrits. Donc, on ne peut pas dire parce que c'est sur Internet, la qualité est forcément moins bonne. Je pense que simplement, étant donné qu'effectivement, il y a beaucoup plus de diffuseurs et qu'il est facile, il est relativement facile d'accès et peu coûteux pour n'importe qui de diffuser du contenu. Alors évidemment, il y a aussi beaucoup de choses moins honorables qui circulent sur l'outil, mais on ne peut pas accabler l'outil pour la mauvaise qualité de ce qu'on y lit. Maintenant, toute la question des médias et surtout de la consommation de médias online, c'est comment on fait pour établir des marques qui vont permettre pour l'usager de s'y retrouver et, disons, de faire confiance à une information plutôt qu'une autre. Alors, c'est là que les éditeurs traditionnels avaient une longueur d'avance, parce que quand vous lisez letemps.ch, ben vous lisez une information qui est sur Internet, mais qui est véhiculée par la crédibilité de la marque Le Temps. Et c'est pour cette raison qu'il est très difficile pour de nouvelles marques, on a parlé de Rue 89 ce matin, ou Mediapart, des nouveaux sites qui se sont lancés, ou largeur.com à l'époque en 99, eh bien, tout le travail était de dire, bon, comment est-ce qu'un lecteur qui tombe sur ce site va accorder de la crédibilité à cette information? Il ne connaît pas les journalistes, il ne connaît pas la marque qui est derrière, il ne sait pas qui est l'éditeur, il ne sait pas comment c'est financé. Et donc, toutes ces questions-là qu'on se pose beaucoup moins quand on est dans un kiosque physique, parce que quand on est dans un kiosque physique, on imagine toujours qu'il y a quelqu'un qui a dû payer pour le papier, distribuer, il y a des annonces à l'intérieur, donc on connaît un petit peu le modèle économique de la presse traditionnelle, et on lui accorde symboliquement ou disons presque naturellement une certaine confiance, parce qu'on se dit bon, ben, pour être allé jusqu'à ce kiosque, il a bien fallu que ce journal passe par un certain nombre de filtres, et sur Internet on les a pas. Alors il a fallu un petit peu, il faut créer ces repères et cette confiance entre le lecteur et l'éditeur, et c'est là qu'il y a au fond une bataille des marques qui s'est mise en place, et il y a un certain nombre de marques qui ont réussi à émerger. Donc, en existant uniquement en ligne. Alors, d'abord aux États-Unis, aussi en Europe. Et ça, évidemment, c'est un long travail parce qu'il faut acquérir la confiance de son public. Mais c'est pas parce que, évidemment, il y a aussi du. Enfin, ce que je voulais dire, c'est que c'est pas parce qu'il n'y a pas que des marques, disons, connues et qualitatives que tout ce qu'on lit n'est pas de qualité à être crédible, disons.
Baptiste Honkeler, encore que jeune acteur dans ce nouveau monde numérique.
Oui, alors il est nouveau, mais c'est vrai que pour nous, on a un peu toujours vécu avec, donc ça paraît assez presque normal. Au niveau des informations, à mon avis, il y a vraiment deux sortes d'informations. La directe brute qui vient de Facebook, Twitter ou certains quotidiens en ligne gratuits. Et c'est là où il faut faire d'une certaine manière appel à l'intelligence du lecteur qui doit lui-même trier les informations qui sont importantes. Mais il y a aussi après une sorte de deuxième information qui, elle, est analysée avec du recul. Et c'est là, à mon avis, qu'il y a le travail des journalistes professionnels qui doivent prendre vraiment ce recul et chercher si les informations sont bonnes ou non. Et c'est vrai que c'est la différence entre ces deux informations qui pose vraiment problème sur Internet, parce qu'on n'a pas de moyens de savoir si quelles informations sont bonnes ou pas. Et comme le disait Monsieur Sigrist, c'est difficile d'avoir vraiment une confiance entre les lecteurs et les journalistes. Et c'est pour ça que le métier de journaliste maintenant a un côté où il faut montrer le professionnalisme dans chaque écrit, chaque audio, etc.
Et j'ajouterais juste une chose peut-être qui peut initier le débat, c'est qu'on a vu malheureusement les éditeurs utiliser ou appliquer des règles et des codes déontologiques différents en fonction des médias qui étaient diffusés. On a tous en tête cet exemple du fameux SMS fictif de Nicolas Sarkozy à son ex-femme Cécilia, « Si tu reviens, j'annule tout ». Un SMS dont on n'a jamais pu déterminer la validité et qui a été diffusé par le site du Nouvel Obs, donc nouvelobs.com, et qui donc était accrédité par le Nouvel Obs, Nouvel Observateur, donc journal établi, connu, mais cette information a été utilisée, a été véhiculée uniquement par le site internet. Et on a eu ce même genre de rumeurs, ensuite d'ailleurs toujours autour du même couple Sarkozy, mais alors cette fois avec cette rumeur de liaison entre Carla Bruni et un chanteur, Benjamin Biolay. Et cette information a été véhiculée sur Internet par un certain nombre de sites, y compris par la TSR. Donc TSR.ch avait fait une en disant, voilà, il répercutait cette rumeur. Et cette rumeur n'existait qu'en ligne, et elle a été au fond accréditée par des sites qui eux-mêmes étaient des sites de grands médias, donc comme celui de la TSR ou celui du Nouvel Obs, mais évidemment, ils n'auraient jamais diffusé cette information sur le canal TSR ni dans le journal Nouvel Obs. Donc c'est là qu'on a vu apparaître des dichotomies d'usage de la déontologie entre l'Internet et le média traditionnel. Et ça vient de plusieurs choses. Ça vient qu'à l'intérieur des médias, on a souvent deux rédactions. On a une rédaction pour le web et une rédaction pour le print, ou une rédaction pour l'audiovisuel classique et une petite rédaction pour le web. Et ça pourquoi ? Pour des raisons économiques. C'est-à-dire que le web n'étant pas rentable, ne rapporte pas suffisamment, on utilise des journalistes moins formés ou des stagiaires, ou on utilise du contenu qui vient d'ailleurs, qui est même souvent agrégé ou acheté à l'extérieur, simplement pour avoir un ballast d'informations qui circulent sur Internet, pour pouvoir quand même avoir un petit peu d'audience et occuper le terrain. Et du coup, on n'applique pas les mêmes règles que pour le print ou pour la télévision, où là, on a un modèle économique qui est connu. Donc en fait, pour cette raison, disons économique, on a différencié les rédactions. Alors maintenant, heureusement, on est en train de ressouder les choses et d'avoir des rédactions uniques pour en fait l'ensemble des supports.
Ce qui aurait un effet, c'est de ralentir un tout petit peu ce qui est à la fois pernicieux, mais une contrainte de l'époque, c'est celle de la rapidité. Ces sites sont en très grande concurrence entre eux. On est dans le temps réel de l'information qui passe à la vitesse de la lumière, des tweets, des SMS, des emails. Et donc, il faut aller très, très vite, de plus en plus vite. Et donc, les exemples qui ont été donnés sont aussi des exemples de trop grande vitesse. Et donc, là, s'il y a, nous, un souci qu'on a maintenant constamment en tête, c'est d'essayer de ralentir les choses, d'être dans un temps un tout petit peu plus lent, parce que le temps de plus en plus court de cette information est évidemment problématique pour toujours cette phase essentielle de la vérification, de la pondération et de ce qui est quand même une des règles principales de l'information.
Et encore une dernière chose, c'est qu'il y a une culture de l'approche du sujet un peu pirate qui existe sur Internet, parce qu'avant, les grands médias n'étaient pas présents sur le net, il y avait plutôt une contre-culture, une approche plus radicale de la communication, qui fait que justement cette déontologie à deux vitesses a continué à se produire et à se prolonger. Parce qu'on se dit, sur le net, on peut s'autoriser certaines choses. Et si on prend les chaînes de télévision en continu, où il y a aussi cette immédiateté, cette nécessité d'être avant les autres, cette très grande concurrence, les chaînes d'information en continu n'auraient jamais publié ces informations non validées, etc. Parce qu'on appliquerait à ce moment-là les règles de déontologie. Il faut vérifier la provenance de ce SMS. Est-ce qu'on l'a ? Est-ce qu'on ne l'a pas ? Est-ce que c'est vérifié ? Est-ce que c'est validé par l'Élysée, par d'autres sources ? Comment on fait pour le vérifier ? Alors que sur Internet, on se dit, on s'en fout, on balance, on verra bien. De toute façon, c'est un petit peu comme ça que ça se passe sur le net. On vérifiera plus tard et on y va. Donc, il y a une approche vraiment du sujet qui est très différente. Mais là, heureusement, on voit une évolution, je trouve, depuis ces dernières années. On va vers quand même plus d'exigences aussi de la part de l'usager et de l'internaute.
Voilà. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Oui, monsieur.
Moi, j'aurais déjà une première remarque. Il ne faut quand même pas négliger le récepteur de l'information. Le client, il garde quand même son esprit critique. Et il faut que cet esprit critique soit cultivé, soit amélioré ou soigné dans la mesure du possible, mais le dernier filtre quand même de savoir si vous acceptez une information ou si vous ne l'acceptez pas, c'est votre sens critique. Et puis celui-là, il ne faut pas le négliger complètement. Il ne faut pas manger tout ce qu'on nous offre. Il faut soigner les dernières aventures de Carla Bruni. On s'en fout. Donc, il n'y a pas de problème.
Horrible. D'accord, donc une remarque là-dessus que je prolongerai par le fait que certains observateurs d'Internet estiment que toute information est bonne à prendre et à diffuser du moment que c'est un système qui, quelque part, s'autorégule aussi. Donc c'est des choses qu'on a entendues, c'est-à-dire que même si une information est fausse, il y aura cet esprit critique qui va se manifester par des commentaires aussi d'autres gens qui vont dire « halte, là, on est complètement à côté de la plaque, c'est pas du tout ça oui. ». Donc c'est un système qui s'autocritique aussi, quelque part.
Moi, je le compare toujours à une espèce de biotope dans la nature où, en définitive, tout s'équilibre. On l'a vu avec des exemples récents de faussaires, de gens qui copiaient. Voilà, il y a eu plein d'exemples de discours, de travaux, etc., qui sont maintenant découverts très rapidement. Eux aussi, alors il y a des logiciels qui nous aident, mais il y a toujours quelqu'un sur Internet qui en sait plus que vous. Malgré tout, vous êtes persuadé de détenir un savoir et tout, ben, il y aura toujours quelqu'un qui va moduler, corriger, etc. Et donc, il y a une espèce d'hygiène, de prophylaxie d'Internet qui fait que pour tromper son monde, il faut avoir de solides raisons, être très habile ou alors détenteur d'un savoir pas les autres. Et donc, dans le domaine de l'information, moi, je trouve très rassurant, et ça me rend optimiste, qu'il y ait ce phénomène de régulation interne, en fait, à l'Internet.
Il y avait monsieur avant, mais vous pouvez attendre, puisque le micro est déjà là, je vous laisse madame, puis après monsieur, tout de suite.
D'accord. Merci. Oui, vous l'avez dit que Internet est maintenant de plus en plus rapide hein, pour donner les informations, et puis, dans le cas de la Libye, on a vu que c'était des fois la seule source. Et moi, je m'étonne un petit peu au rôle des médias, parce que le rôle des médias, c'est justement de vérifier. Mais on constate qu'en fait, dans l'évolution actuelle, ben, vous l'avez dit vous-même, vous avez donné des exemples, les médias eux-mêmes publient des informations non vérifiées. En même temps, ils économisent, donc, c'est-à-dire ils engagent de plus en plus de jeunes qui n'ont aucune expérience. Et à la fin, quelle est la plus-value des médias ? Le public a de moins en moins confiance dans le journaliste et dans les faits, le rôle de vérificateur n'est pas de moins en moins, disons, pris en compte, garanti. Et en même temps, les médias sont souvent derrière avec l'information qui arrive avant, plus vite et de partout à travers l'Internet ou les autres médias sociaux.
Je vais peut-être Gabriel Segris d'abord réagir.
Moi, je pense qu'il y a une exigence de qualité de la part du lectorat, de l'audience. Donc, je pense qu'effectivement, les médias ont de moins en moins de moyens. Donc, ça veut dire que c'est de plus en plus difficile de pratiquer peut-être le métier comme on le faisait à l'ancienne, avec énormément de coups de fil et tout. Puis, il faut aller plus vite, etc. Ça, c'est clair. Mais il faut voir aussi que les outils d'aujourd'hui nous permettent quand même d'être beaucoup, beaucoup plus efficaces comme journalistes. Et on dit souvent une rédaction, bon, on voit celle de l'Hebdo, par exemple, où travaille Luc, qui était une rédaction qui avait beaucoup plus de journalistes il y a 30 ans qu'elle n'en a maintenant. La raison, c'est pas seulement qu'il y a des compressions budgétaires et puis que voilà, qu'il faut faire avec moins, mais c'est aussi qu'un journaliste est beaucoup plus efficace parce qu'il peut appeler beaucoup plus de monde parce que tout le monde est joignable avec son mobile. Il peut rédiger beaucoup plus rapidement son article parce qu'il peut utiliser l'électronique. Il peut vérifier beaucoup plus rapidement les informations parce qu'il peut trouver des experts sur Internet très rapidement. il peut avoir accès à des gens, avoir accès à des sources. Donc c'est vrai aussi que l'efficacité d'un seul journaliste est devenue beaucoup plus importante. Maintenant, il n'en reste pas moins, comme vous dites, que les pratiques du métier ne sont peut-être pas appliquées partout avec la même rigueur. On a vu des journaux gratuits apparaître avec des pressions, des compressions sur les coûts. On fait surtout de répéter des informations qu'il y a eu ailleurs et puis on ne s'inquiète pas de savoir si elles ont été validées précédemment ou pas. Mais il existe quand même toujours des marques fortes. Et c'est vers ces marques fortes que vont se tourner les gens qui ont une exigence de la qualité de l'information. Et vous avez encore des très grands titres dont la déontologie n'est pas à mettre en cause et des journaux qui ont la confiance de leurs lecteurs. Maintenant, le problème, c'est que ces journaux sont payants et que les gens, ils veulent un petit peu le beurre et l'argent du beurre. C'est-à-dire qu'ils veulent une information gratuite, qualitative, vérifiée, avec double source, avec trois journalistes derrière, un envoyé spécial, des photos de qualité et tout, puis ils ne veulent pas payer. Donc évidemment, après, il y a quand même un petit problème. Donc c'est là que, simplement, il faut segmenter un petit peu les marchés. C'est ça un petit peu le problème dans lequel on est.
Je ne suis pas sûr que les gens ne veuillent pas payer. Je crois au contraire qu'il y a une corrélation entre un prix assez haut et une confiance, une demande de crédibilité, de validité de la formation. Je vous donnerai deux exemples. C'est celui du Temps, qui n'est pas un journal bon marché, dont l'abonnement est cher, même l'abonnement en ligne est cher, qui a pris justement ce pari d'être assez onéreux, mais d'offrir cette confiance en quelque sorte. Un exemple encore plus radical, c'est celui de The Economist. Je suis parti cet été en reportage dans la rédaction de The Economist. Donc vous allez dans un kiosque dehors, le numéro de The Economist c'est 10 francs. Vous payez l'abonnement, il est aussi cher. Et pourtant, ce magazine est le succès de presse actuellement dans le monde entier. Il tire à 1 500 000 exemplaires, c'est un hebdomadaire. Ils ont un succès massif aux États-Unis parce que les Américains savent que c'est une source à la fois extérieure, donc un point de vue un peu plus neutre, un peu plus objectif sur eux-mêmes. Et puis surtout que c'est un périodique qui est très fiable. Et donc, ce magazine ne cesse de gagner des lecteurs, il ne cesse aussi d'augmenter un petit peu les prix, parce que, voilà, il y a une vraie logique à proposer un prix fort pour une information forte également. Et je pense qu'on va arriver à un secteur des médias qui est très... les gens vont faire la part des choses. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Les gens doivent garder leur esprit critique. Mais il faut cesser de penser cette planète média comme une planète entière. Comme ça, il y a diverses entités. Et ce qui m'a beaucoup énervé dans la dernière étude de l'Université de Zurich sur la qualité des médias en Suisse. Cette étude, très docte, très longue, très chère, les annales, le bouquin fait près de 2 kilos, conclut tendanciellement à une baisse qualitative des médias, disant justement que les journaux gratuits tirent tout le monde vers le bas avec ce goût de ce qu'on appelle l'infotainment, c'est-à-dire justement du Carla Sarkozy, de ces histoires. Mais c'est en quelque sorte de considérer les médias suisses comme une seule entité, avec des particules qui interagissent, qui se contaminent, qui se pourrissent les uns les autres et tout. Non, ce sont des entités différentes auxquelles on fait une certaine confiance, auxquelles on fait moins confiance. Quand moi, je lis un journal gratuit, je sais que je dois prendre des infos, des fois, avec des pincettes, mais je le sais. Je suis tout à fait aussi là d'accord. On le sait, on est prévenu. Donc, cessons de nous dire que tendanciellement, les médias sont moins bien, on leur fait moins confiance et tout. Non, c'est plus nuancé et plus compliqué que ça, je pense. Et surtout, ça change.
Est-ce que Baptiste Onkela va ajouter quelque chose ? Je pensais aussi par rapport à l'aspect local, puisque vous diffusez surtout pour le public neuchâtelois, même si vous êtes sur le web. Et là, il y a aussi un aspect, je pense, de la proximité qui pourrait aussi donner un gage de qualité, parce que vous êtes proche de votre public, vous êtes proche des affaires locales.
Tout à fait, on est proche et vraiment accessible aussi, dans le sens où notre studio, il est dans une vitrine au centre-ville, donc les gens nous voient quand on fait nos émissions, et on a vraiment un contact avec eux en faisant des micro-trottoirs, en discutant avec eux. Donc je pense qu'avec ça, on atteint vraiment une confiance avec le public qu'il n'y a pas avec des journaux au niveau roman gratuit, par exemple. Et c'est vrai que je crois que Les lecteurs font vraiment la part des choses entre les journaux gratuits ou les médias gratuits et les médias payants. Et on l'a vu par exemple avec le site arcinfo.ch, au départ toutes les informations étaient gratuites, puis après c'est devenu payant, et ils ont eu une augmentation du nombre de personnes qui sont venues regarder et qui sont bien sûr inscrits. Donc ça veut dire que les gens ont plus confiance quand c'est payant, et donc ça rajoute une plus-value quand les médias sont payants. Donc à mon avis, les lecteurs sont assez critiques là-dessus.
Monsieur, votre question.
Alors écoutez, vous permettez, ça marche, ça joue? On entend un peu plus près? On a employé ce débat par le mauvais bout, parce qu'on parle des médias. Alors premièrement, dans l'invitation du journal, on voulait parler de la presse. Or, la presse, c'est qu'une partie des médias. Maintenant, dans ces médias, on mélange des émissions radiophoniques, Internet, mais dans les seuls médias de la presse, il y a des différences très sensibles. Il y a le quotidien, il y a l'hebdomadaire, il y a les journaux scientifiques, et on ne peut pas parler de tout ça en les mettant tous ensemble. Ensuite, il est faux de dire Internet a effectivement modifié le travail des journalistes, mais c'est de la faute aux journalistes. Et je vais vous expliquer pourquoi. En fait, monsieur a dit on ne se préoccupe pas de ceux qui reçoivent l'information. C'est les lecteurs, c'est les auditeurs, et c'est ceux qui vont sur Internet quand ils le peuvent. La plupart des jeunes ici, je suis sûr qu'ils ont commencé par utiliser les journaux gratuits. C'est normal, parce que le journal, il faut faire une dépense. Donc, pour faire cette dépense, il faut qu'on nous offre quelque chose de concret en échange. Si les quotidiens ont perdu leur influence, j'y vois deux raisons. La première, c'est qu'il y en a trop en Suisse romande. Et la deuxième, c'est parce qu'ils ne remplissent plus leur mission. Le journaliste, et ça je le note ici parce que ce n'est pas juste ce que vous avez émis, l'Internet a modifié le journaliste à papa basé sur l'investigation. Eh bien moi je vais vous dire, depuis des années, le journaliste à papa, c'est celui qui ne fait même plus l'investigation et qui se contente des communiqués de presse. Et voilà la perte d'audience des quotidiens. Les hebdomadaires font un travail bien meilleur, notamment l'hebdo, qui fait des enquêtes, qui va au fond des choses. Ils ont le recul, ils ne paraissent qu'une fois par semaine. Évidemment, ça leur facilite le travail. Même l'Illustré, qui est un journal de boulevard pour certains, il arrive à faire des enquêtes et sortir des sujets intéressants. Alors, il faut voir la chose. Si les gens vont sur Internet, c'est parce qu'ils apprennent sur Internet ce que la presse ne leur dira jamais. Je vais vous donner deux exemples. La presse, à un moment donné de son histoire, était appelée le quatrième pouvoir. Il y a bien longtemps qu'elle a perdu ce pouvoir. Et je vous donnerai deux exemples très importants où la presse a fait faillite, à mon avis, qui se sont passés en Suisse, les suivants. La faillite de Swissair. Lorsque Swissair a fait faillite et que la Confédération est intervenue financièrement pour l'aider, je n'ai pas vu le raz-de-marée des journalistes protester contre l'utilisation des deniers publics pour aider une entreprise privée. La Confédération perdait déjà ses actions, c'était pas mal. Deuxième scandale encore plus important, l'UBS. Pourquoi pas laisser faire faillite l'UBS? Ça aurait été tout bénéfice pour les banques cantonales et les banques et les autres petites banques. La Confédération n'avait pour mission que de préserver la part des épargnants qui est garantie par l'État. Le reste, elle n'a pas à investir pour sauver les spéculateurs et les fausses manœuvres d'une grande banque. Je n'ai pas entendu la presse parler de ça dans les journaux. Personne n'a élevé le mot ou n'a écrit quelque chose contre cette ruine du patrimoine suisse en faveur de gens qui l'avaient probablement déjà exploité une première fois. Alors, quand vous dites qu'Internet a modifié les choses, je m'en félicite, parce qu'il y a des choses qu'Internet dit et que vous n'avez jamais osé dire tous les autres médias, y compris la radio, y compris la TV, y compris les journalistes.
Donc, merci beaucoup pour cette intervention musclée. Je crois qu'il y a beaucoup matière à discuter, effectivement. Donc, si je comprends bien, monsieur, les médias n'ont absolument pas rempli leur rôle. Peut-être, vous avez sans doute des compléments, tout au moins des réactions par rapport à ce qui vient d'être dit.
Oui, d'un point de vue plus général sur l'avis des gens sur l'actualité, c'est vrai que grâce à Internet, on a vraiment pu donner la parole à tout le monde. Justement, on a vu avec l'UBS, on peut s'informer très facilement sur les différentes opinions. Suissaire, j'avoue qu'à l'époque, je ne suivais pas encore beaucoup l'actualité, donc je ne sais pas si les médias ont beaucoup parlé de ça. UBS, moi, j'ai lu dans les journaux que ça en parlait. Que ce soit pour ou contre les deux. Et c'est vrai que, justement, dans les débats politiques en général, on peut chercher les informations, que ce soit pour ou contre. Et ça permet d'enlever, d'une certaine manière, le quatrième pouvoir de la presse qu'il y avait à une certaine époque.
Moi, je n'ai pas les souvenirs pour Suissaire, en revanche, d'une espèce de grand silence sur ce qui se passait. J'ai plutôt le souvenir de l'inverse. Je travaillais à l'époque avec Jacques Pilet et c'était obsessionnel. À chaque briefing, on revenait sur cette affaire Suissaire. Il fallait trouver des éléments, il fallait investiguer, s'indigner. Le nombre d'éditos que Pilet a fait, mais souvenez-vous, c'était l'inverse. C'était dans le Nouveau Quotidien, c'était dans l'Hebdo, ça a été ensuite dans le Temps pour Suisse. Je sais, j'étais là, donc j'ai un peu l'impression que c'était l'inverse. Et puis regardez, je ne sais pas, aujourd'hui par exemple, l'UBS. L'UBS, bilan sort aujourd'hui, bilan mensuel, avec d'excellents journalistes. Qu'est-ce que c'est la couverture? C'est, avec cette fameuse affaire du trader à Londres qui a fait perdre plusieurs milliards à l'UBS, c'est un gros scoop. Toute la hiérarchie de ce trader était au courant, l'a couvert, etc. Donc j'ai plutôt l'impression qu'en l'occurrence, la presse a plutôt bien fait son métier. Évidemment que le débat plus général sur est-ce qu'il fallait complètement démembrer l'UBS, laisser les banques cantonales en profiter, c'est des prises de risque maximales, chacun doit prendre ses responsabilités. Il est vrai qu'il y a pas mal de médias qui sont proches des milieux économiques, il est vrai que les banques sont de gros annonceurs dans les rédactions, dans les journaux, et donc il y a plein évidemment de courants contraires qui des fois nous obligent tout d'un coup à se dire oui, mais est-ce qu'on peut aller aussi loin que ça dans cette information? Mais si on l'a, bon sang, regardez Bilan, la moitié de ses pubs ou le tiers de ses pubs, ça vient des banques, ça ne les empêche pas de sortir cette info qui est quand même très déstabilisante, ne serait-ce que pour la direction de l'UBS, de l'investigation, c'est du journalisme. Si ce n'est pas du journalisme, je ne sais plus ce que c'est.
Gabriel Sigrist.
Bon, je crois qu'on a un exemple simplement de mélange entre les faits et les commentaires, c'est-à-dire qu'on est en présence d'une personne qui n'aime pas les médias romans ou qui estime ne pas être du même avis que ce qu'il peut y lire et justement qui se réjouit de pouvoir trouver d'autres avis et d'autres opinions et une autre manière de trouver de l'information ailleurs. Alors si c'est pas dans les journaux et que c'est Internet, moi je m'en réjouis aussi et je suis tout à fait d'accord avec ce point de vue. Je pense que peut-être que les médias romans ou les médias suisses manquent de diversité, ça c'est possible, on en a souvent parlé, il y a souvent eu des débats, il y a beaucoup de journaux qui ont essayé de se lancer, qui étaient des journaux avec d'autres opinions politiques que un peu le mainstream, centre-droit qu'on voit un peu ici ou là, et qu'on a souvent reproché aux médias romans, mais disons, c'est pas un hasard aussi si il y a une certaine pondération un peu helvétique, et puis que les journaux régionaux sont plutôt orientés traditionnellement un peu plus à droite, et puis que les journaux suprarégionaux sont un petit peu plus centre-droit, et puis que voilà, il y a une sorte de tradition suisse, et puis que ça s'est établi comme ça, et puis qu'effectivement, il y a tout un public qui ne se sent pas représenté par ces courants politiques ou cette vision du monde. Alors, ils ont essayé d'exister autrement, avec des petits journaux. À Genève, on a le Courrier, Et le Gauche Hebdo qui existe, il y a maintenant un nouveau journal qui s'est lancé à Genève qui s'appelle La Cité. Donc il y a aussi des journaux, des titres qui essayent de se lancer pour essayer de trouver aussi une réponse et de trouver aussi un lectorat parmi ces déçus, disons, de la presse traditionnelle ou mainstream. Et ils ont beaucoup de mal parce qu'effectivement, il y a beaucoup de coûts. Donc ces modèles-là fonctionnent beaucoup mieux sur Internet puisqu'il y a beaucoup moins de coûts. Donc on le voit ici avec une petite radio associative financée par les deniers publics, mais c'est aussi possible avec des médias collaboratifs où on fait travailler spontanément les gens. On peut essayer d'inventer beaucoup de choses et c'est ça qui est beau, disons, avec le modèle nouveau de 2.0, comme on dit, de la presse, c'est qu'on peut effectivement monter un média avec très peu de moyens et faire exister des nouveaux sons de cloche, des nouveaux avis, des nouvelles opinions et ensuite concurrencer à quelque part aussi les grands médias. Mais disons, tout le monde se bat pour le même beefsteak, c'est-à-dire que voilà, il y a l'audience et cette audience, il faut la rentabiliser avec de la publicité parce que les gens ne veulent pas payer pour le contenu quand il est en ligne. Et donc, effectivement, après, il faut trouver sa logique. Donc, ce n'est pas tout de dire « je suis déçu des médias traditionnels », il faut encore réussir à faire exister un média différent sur Internet. Et ça, c'est toute la question.
Faire exister un média, justement, avec Neuschwox, qu'est-ce que vous visez? Quel était votre objectif quand vous avez créé cette web radio?
Alors, en fait, on avait deux objectifs. On a plus deux objectifs qui nous différencient beaucoup des autres médias. C'est qu'on a l'objectif d'intéresser les gens à ce qu'on fait, etc., ce qui est assez normal. Mais c'est aussi avoir, nous, de l'expérience et de pouvoir avoir une expérience qu'on ne pourrait pas avoir autrement, de pouvoir travailler dans une radio. Enfin, travailler, c'est bénévole. Mais comme ça, facilement, c'est très rare. Et ça permet aussi d'être un tremplin pour la suite. C'est-à-dire, par exemple, on a eu des contacts avec RTN qui nous ont dit « Ouais, on va écouter vos émissions pour voir s'il y a des talents, s'il y a des gens qu'on peut reprendre après. » Et donc, on est très différent dans le sens qu'on n'a pas non plus de pression, de publicité, comme certains médias peuvent l'avoir par rapport, comme vous le disiez, aux banques ou aux assurances, etc.
Juste réagir par rapport également aux commentaires qui vient d'être donné sur l'importance d'Internet. Alors je crois en revanche c'était très juste. Il y a un rééquilibrage de ces influences et de ces autorités en quelque sorte médiatiques. Avant, jamais un preneur d'otages comme l'autre soir à Paris n'aurait téléphoné à un site Internet, à un blog ou que sais-je pour revendiquer son action. Là, on a quelqu'un qui était un informaticien qui connaissait bien les médias et qu'est-ce qu'il a fait? Il a téléphoné au rédacteur en chef de Rue 89 qui est un site d'information français qui existe maintenant depuis plusieurs années, qui a pignon sur rue, sachant très bien, ce preneur d'otages, qu'il aurait une chambre d'écho, que son action serait très bien répercutée et surtout très rapidement par Internet. Regardez toujours, pour prendre l'exemple français, le nombre de scoops d'informations que sort un site comme Mediapart. Mediapart, créé par un enseignant de la JM, M. Plenel, il y a maintenant 3 ans, qui de manière systématique, dans les grosses affaires françaises récentes, sort des informations. À la grande déconfiture et jalousie, sans doute, des médias plus traditionnels, mais ce sont eux maintenant qui sont en quelque sorte les big players, les grands joueurs. Et ça, c'était encore inimaginable il y a, je sais pas, 2 ans. C'était pas possible. Et le monde change, effectivement. Mais ça reste toujours du journalisme de très haute qualité quand même.
Justement, est-ce que par rapport à ce journalisme, par rapport à ce journalisme de haute qualité, est-ce que les méthodes ont véritablement changé? Est-ce qu'on peut dire 2 mots là-dessus? Ou c'est finalement le métier reste le même, mais c'est juste le support qui a changé et le timing?
Alors, pour ce qui est de ces exemples précis, Mediapart, la méthode n'a absolument pas changé. C'est le support qui change. La méthode, c'est-à-dire l'investigation chez Mediapart, je ne sais pas, ils sont 10, 12, 15 enquêteurs de terrain qui prennent des jours, des semaines, des mois pour enquêter parce qu'on leur donne, les moyens. Regardez des sites comme Publico ou d'autres sites américains d'investigation qui sont financés pour ces enquêtes au long cours, justement. Donc la méthode, là, ne change pas. En revanche, la tuyauterie, les supports, eux, changent complètement.
Et surtout, avec un seul titre comme Mediapart, ils n'ont pas besoin d'être exhaustifs sur l'actualité. Ils peuvent se concentrer, donc concentrer tous leurs efforts sur la plus-value. Qu'est-ce qu'ils vont amener en plus que les autres médias? Pourquoi? Parce qu'ils savent que l'information de base, elle est juste à un clic. C'est-à-dire que la personne peut très bien s'informer sur un site d'information traditionnel ou une chaîne d'infos en continu, mais ce qu'il va chercher sur Mediapart et la raison qu'il va faire, qu'il va dépenser quelques sous pour avoir accès à ce journalisme d'investigation à haute valeur ajoutée, c'est parce qu'il aura quelque chose qui n'aura pas lieu ailleurs. Donc il y a cette volonté d'unicité. Et là, je pense qu'on est dans un nouveau modèle, une nouvelle manière de consommer l'information. C'est-à-dire avant, au lieu d'avoir une source, un journal, un quotidien qui va me donner en même temps une sorte de survol de l'ensemble de l'actualité et en plus une plus-value enquête, valeur ajoutée, on aura une dissection des titres avec des titres qui vont faire beaucoup plus de l'information de base, continue, avec peu de valeur ajoutée, qui seront gratuits, et puis des titres payants où là, il y aura beaucoup de plus-value. Et je pense qu'on peut le voir comme quelque chose de positif, on peut aussi le voir comme quelque chose d'inquiétant, puisqu'on aura à ce moment-là une sorte de société à deux vitesses ou à plusieurs vitesses, avec des gens très bien informés qui auront eu accès à une information payante et des gens moins bien informés ou disons avec une richesse, moins, une densité moins grande d'informations parce qu'ils n'auront pas eu accès à ces titres payants.
Une remarque peut-être pour glisser, je ne sais pas, peut-être sur l'enjeu du journalisme participatif. Moi, je me souviens, à la naissance de Mediapart, il y avait une insistance sur un site qui cherchait beaucoup la collaboration, les informations des citoyens qui nous disaient « mais donnez nos informations, écrivez-nous, écrivez des articles ». Or, maintenant, Mediapart est plutôt un site de journalisme pur, payant, très professionnel. Et donc là, ce rêve d'il y a 3 ans, ça ne veut pas dire qu'il est disqualifié, qu'il n'est pas possible ailleurs, mais on voit qu'il ne s'est pas vérifié.
Ouais, moi, j'aimerais bien revenir par rapport à la différenciation des médias qui a été évoquée encore par monsieur et d'avoir la chance d'avoir Gabriel Sigrist à mes côtés pour lui poser cette question au sujet de l'organisation même de son travail entre les différents produits qu'il gère, puisqu'il y a largeur.com, c'est d'une part ceci. D'autre part, il y a cette agence de presse Large Network. Vous faites aussi de l'information, mais je dirais que c'est moins du journalisme que plutôt de la communication institutionnelle. Et c'est là que je viens avec des produits comme Reflex. Oui. Je ne sais pas comment vous situez encore la limite entre communication institutionnelle et journalisme avec un produit comme Reflex, par exemple.
Alors, je crois que notre ambition a toujours été de vouloir faire du journalisme de qualité et surtout vouloir financer du journalisme de qualité. Alors on vient de dire que Mediapart arrivait à le faire maintenant, mais maintenant on est en 2011. Et en 99, c'était impossible pour plusieurs raisons, c'est-à-dire que les habitudes de consommation ont migré rapidement vers l'Internet, c'est-à-dire que les gens ont de plus en plus facilement consommé de l'information ou lu des textes ou lu de l'information sur Internet. Par contre, les budgets publicitaires ont été beaucoup plus lents à migrer. C'est-à-dire qu'ils sont restés accrochés aux anciens médias pendant très longtemps. Et comme beaucoup d'éditeurs, nous, on avait anticipé une migration relativement rapide des budgets publicitaires vers l'Internet. Cette migration était beaucoup plus lente que prévu. Par ailleurs, non seulement elle était plus lente, mais ensuite, elle a été morcelée. C'est-à-dire qu'on s'est retrouvé avec une multitude d'acteurs et des nouvelles plateformes qui sont nées, et des moteurs de recherche dont vous connaissez tous les noms, et des nouveaux supports qui sont arrivés comme des concurrents des médias traditionnels. Donc, au lieu d'être dans un univers fini, qui est celui du kiosque ou des journaux ou des chaînes de télévision qu'on connaissait, eh bien, on est arrivé avec tout d'un coup une multitude de plateformes. Et du coup, le journalisme de qualité qu'on voulait faire, le journalisme exigeant et les journalistes de qualité qu'on voulait aussi payer décemment, eh bien, on n'arrivait pas à lever suffisamment de moyens pour pouvoir rentabiliser l'activité. Raison pour laquelle nous avons diversifié en une agence de presse qui vend donc ce même contenu à des éditeurs existants. Alors nous travaillons pour Ringier avec l'Hebdo, nous travaillons pour Edipresse avec la Tribune de Genève et aussi Bilan occasionnellement, et nous travaillons pour Axel Springer avec PME Magazine, qui est un magazine économique. Et ça représente environ 30% des revenus de notre agence aujourd'hui. C'est donc l'activité dite éditeur. Et ensuite, effectivement, il y a une autre activité qui s'est beaucoup développée, qu'on appelle le custom publishing, et qui consiste à fabriquer des journaux clés en main pour des institutions ou des entreprises. Alors, il ne s'agit pas de produits de communication. Nous, on se différencie des agences qui font de la publicité, parce que ce qu'on dit à nos clients, on dit un peu la même chose que, finalement, quand un magazine offre des pages de publicité dans un bilan à de la publicité pour les banques, ça ne veut pas dire que c'est un journal qui est à la merci des banques. Donc, l'idée est de dire, voilà, nous concevons un produit, comme Reflex est un magazine scientifique, donc on a conçu ce magazine scientifique, et il se trouve qu'il est édité par les PFL. Alors, bien sûr, il est fait en collaboration, les PFL peuvent intervenir sur les contenus, sur les choix des sujets, l'objectif est de faire un magazine scientifique exigeant avec des journalistes professionnels. Voilà l'idée. Alors, on fait aussi un magazine pour les HES, qui s'appelle Hemisphère, dans le même état d'esprit. Et on fait aussi un magazine financier pour une banque qui s'appelle Swissquote. Alors l'idée, là aussi, n'est pas de faire un magazine qui ne parle que de Swissquote pour dire à quel point c'est une banque extraordinaire, parce que sinon, ça n'aura aucun sens d'engager des journalistes pour faire ça. On est beaucoup mieux avec des agences de publicité. Alors nous, on fait un magazine utile qui s'adresse aux financiers et aux gens qui veulent investir en bourse. Et c'est un magazine de conseil. Et il se trouve qu'il est édité par la banque Swissquote. Donc ça, c'est un modèle économique qui est atypique, qui n'est pas réplicable à l'infini. C'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup d'autres agences qui se sont lancées sur ce créneau, mais qui nous permet, avec cette activité tripartite, de financer le journalisme de qualité que nous continuons de pratiquer.
Mais est-ce que ça ne pose pas des problèmes de conflit d'intérêts dans votre travail par rapport à largeur et aux articles assez critiques, d'ailleurs, et aux belles plumes que vous avez dans l'équipe de largeur?
Alors, il y a une règle de base, c'est qu'effectivement, on ne parle jamais de nos clients dans les titres de presse traditionnels. Donc, nous n'écrirons jamais un article sur Swissquote dans l'Hebdo ou dans PME Magazine. Si on découvre un scoop sur Swissquote, ben évidemment, nous n'allons pas être en position de pouvoir le diffuser dans un titre de presse traditionnel. Donc, ça, c'est la limite de l'exercice. C'est la raison pour laquelle on ne peut pas avoir une infinité de clients, parce que sinon, on pourrait écrire sur plus grand-chose. Donc, là, on est obligé. Il y a une limite, effectivement, à l'exercice. Mais à part ça, disons, les conflits d'intérêts ne sont pas plus importants qu'entre un annonceur et un journal. Au fond, c'est exactement le même procédé.
J'ajouterais une chose pour les médias comme le nôtre, l'Hebdo par exemple, ou d'autres, c'est tout bénéfice de faire appel à une agence comme largeur.com, parce qu'ils ont des journalistes qui sont très spécialisés, en l'occurrence dans des sujets société, dont on consomme pas mal dans l'Hebdo, et surtout c'est une entité extérieure, c'est moins de charges sociales, c'est moins, on ne cesse de réduire nos rédactions, et voilà une espèce d'agence de presse qui nous fournit du contenu de qualité à bon prix, au meilleur prix, et c'est un nouveau modèle qui s'invente par les contraintes économiques actuelles.
Monsieur ?
Merci. J'avais une petite question pour M. Sigrist, en fait. Vous niez donc que les banques qui font des publicités ont une influence sur le journal, mais pourtant vous parlez directement de ce conflit d'intérêts dans lequel vous ne pouvez pas écrire sur vos clients.
Non, alors je crois qu'il y a confusion. Donc ce que je voulais dire, c'est que dans un magazine traditionnel, comme Bilan par exemple, il y a beaucoup d'annonceurs. Il y a certainement toutes les grandes banques suisses sont annonceurs dans Bilan, mais comme le disait Luc précédemment, ça n'empêche pas Bilan d'écrire des articles sur les banques et de mettre en cause les banques. Donc ça veut dire qu'il y a une dichotomie entre ce qui finance le magazine, qui est la publicité, et la liberté éditoriale. De la même manière, nous avons cette liberté, c'est-à-dire que dans les titres que nous éditons et que nous fabriquons, nous avons une liberté éditoriale. Nous pouvons écrire sur tous les sujets et nous insistons pour garder cette liberté. Maintenant, il est clair que dans la mesure où nous avons des clients commerciaux avec lesquels nous devons avoir des relations de confiance, si une banque ou une institution comme l'EPFL devient client de mon agence, eh bien, je vais connaître des secrets de l'EPFL parce que j'aurai accès à des choses qui vont se passer. Et peut-être que j'aurai tout d'un coup accès à un scandale qu'y aura l'EPFL, un financement occulte de je ne sais quelle chair ou quelque chose. Et moi, je ne peux pas rompre ce lien de confiance que j'ai avec mon client et prendre cette information, ensuite la publier dans l'Hebdo en dénonçant l'EPFL en disant c'est un scandale. Évidemment, à ce moment-là, je dois, sinon je perdrais très vite mes clients puisqu'ils me diraient, ben voilà, vous êtes là et puis on ne sait pas la confiance qu'on peut accorder à cette discussion puisque vous allez balancer tout dans l'hebdo. Donc moi, je dois maintenir ce fil de confiance avec les clients de mon agence, raison pour laquelle, comme je disais, ils ne peuvent pas être infinis, mais c'est vrai que si j'apprends un scandale à l'EPFL, alors j'aurai peut-être la liberté d'en parler à un autre journaliste, ça ce sera encore mon choix, mais disons, ça dépendra peut-être de la taille du scandale, mais disons, je ne pourrai pas le rédiger moi-même ni le commercialiser à un autre média. En fait, voilà la limite de l'exercice.
Et un élément qu'il ne faut pas oublier, c'est que pour un annonceur, mettons l'exemple, votre exemple de la banque, c'est évidemment plus valorisant de passer une pub dans un média qui est crédible. Si ce média est vulnérable à toutes sortes de pressions, s'il est corrompu, s'il est affaibli, quoi, quel intérêt, moi, annonceur, j'aurais à mettre une pub dans un bilan qui est à la botte des banques, qui se couche constamment, ou quand un banquier téléphone en disant « vous ne parlerez pas de cette affaire, ils obéissent ». Non, c'est exactement le contraire, c'est parce qu'ils sont indépendants, parce qu'ils sortent des affaires comme aujourd'hui sur l'UBS, que c'est, voilà, pour un annonceur comme ça, valorisant. Même si des fois, eh ben, voilà, ils se prennent des coups de latte, ils sont critiqués, mais ça marche aussi comme ça.
Oui, monsieur. Et puis, oui, je sais pas. Bah, monsieur, et puis on reviendra, monsieur.
Oui. Je ne parle pas ici de la qualité et de la véracité, je ne parle pas des réseaux sociaux, mais ce qui m'inquiète dans les médias, notamment radio-télévision, c'est que l'accroissement de la concurrence et le besoin de se maintenir une audience conduit, me semble-t-il, à une menace croissante du tabloïd. C'est-à-dire qu'on veut servir aux gens ce vers quoi ils vont le plus, vous devinez un petit peu ce que je pense là, et puis par conséquent, au lieu de former les gens à avoir des exigences d'information plus sérieuses sur ce qui se passe dans le monde, on s'attarde sur ce dont ils se repaissent le plus facilement. Et je crains là des processus cumulatifs qui pourraient être néfastes à l'information.
Alors, est-ce qu'on caresse les gens dans le sens du poil ?
Bon, je pense, en gros, oui, les tabloïdes, avec leur obsession du sexe, du people, etc. Mais enfin, regardez Le Matin, par exemple, ici. Quel est le journal qui, par jour, sort le plus de scoops, d'infos ? Ils ont aussi des enquêtes. C'est, moi, j'étais très surpris. Je prenais l'exemple de The Economist avant, d'entendre directeur, rédacteur en chef de The Economist, pourtant très haut, qui pourra avoir un regard un peu condescendant sur ces journaux du caniveau, me dire qu'au contraire, eux aussi évoluent, eux aussi ont des exigences, eux aussi doivent devenir plus intelligents, etc. Et donc, pour ce qui est de l'information, du journalisme, à enquête, etc., eux aussi ont leur rôle. Alors évidemment, ils le font d'une manière beaucoup plus brutale, contentant évidemment du voyeurisme, etc. Mais je ne crois pas qu'il faille jeter un regard systématiquement négatif sur eux. Là aussi, le monde change.
J'ai été mal compris par... probablement parce que je me suis mal exprimé. Je n'ai pas parlé des tabloïdes, j'ai parlé de la tendance aux tabloïdes de nos meilleurs médias. Quand j'écoute les nouvelles à la radio, je vois qu'on s'attarde longuement à interroger le cousin, la belle-mère, le petit-fils d'un petit scandale qui a eu lieu quelque part, alors qu'il y a des choses importantes qui se passent dans le monde, mais qui exigeraient peut-être un peu plus de formation des auditeurs pour qu'ils s'y intéressent et que par conséquent on laisse tomber.
Donc vous observez une baisse de qualité des programmes de la radio romande. C'est ça que vous... c'est la radio romande dont vous parlez, ou vous parlez de quelle chaîne précisément ? Vous parlez de la radio en général, c'est-à-dire que la radio fait moins bien son travail aujourd'hui qu'autrefois. Soyons plus précis, quels sont les... Alors la télévision, monsieur dit la télévision ici sur ma droite, ici la radio.
Non,
Donc il y a une baisse de qualité des médias audiovisuels subventionnés. Hein, donc on parle ici des médias nationaux payés par notre redevance. Hein, donc.
Je ne vise personne en particulier, mais en tant qu'économiste, je constate que les contraintes économiques jouent malheureusement dans les systèmes d'information.
Mais chez qui ? Parle pas à la RTS, puisque la redevance n'a cessé d'augmenter depuis qu'elle existe. Elle a aujourd'hui dépassé le milliard de francs et les économies ont été très nombreuses, puisqu'on a numérisé les studios. Donc la RTS n'a jamais eu autant de moyens aujourd'hui dans son histoire pour produire de l'information. Donc ça ne doit pas être la raison.
La raison, c'est qu'un média, pour se maintenir sur le marché, doit faire valoir un nombre, une audience suffisamment large. Et la recherche d'audience conduit naturellement à vendre aux gens ce qui leur fait plaisir. Mmh. Et c'est là que je crains un processus cumulatif qui ne va pas nécessairement vers le haut.
Mais je crois que vous allez exactement vers les conclusions de l'étude dont on parlait avant, qui vient de sortir, qui a été réalisée par l'Université de Zurich sur l'ensemble des médias suisses, et qui conclut justement à cette part croissante de ce qu'ils appellent l'infotainment, c'est-à-dire l'information, people, l'information, et ils l'ont mesuré de manière très scientifique, quantitative, en examinant pendant plusieurs semaines, systématiquement, les journaux de la télévision, de la radio, également de la presse, et ils concluent aussi à cette part prépondérante maintenant de l'infotainment. Et je crois fondamentalement que c'est vrai. Moi, quand je regarde maintenant le journal de la TSR avec Darius ou celui de TF1, une demi-heure plus tard, je suis frappé plus en plus du nombre de faits divers, du nombre de sujets people, du nombre... Et c'est vrai qu'il y a une corrélation entre l'énorme concurrence de la TV suisse, de TF1, de M6, etc. Il faut attraper le regard, il faut éviter que le téléspectateur zappe d'une chaîne à l'autre et donc passe à une autre séquence publicitaire, etc. Et je crois que c'est juste. Mais ça ne veut pas dire que les enquêtes, le journalisme qui est dispensé dans ces journaux est désormais inférieur. C'est pas vrai. Comme le dit Gabriel, il y a beaucoup de moyens qui sont réservés, mais l'enrobage, malheureusement, fait que c'est de plus en plus racoleur. Oui, c'est vrai. Voilà, c'est une nouvelle donne. Et ça corrobore un peu ce que je disais pour le matin, pour ce tabloïd. Oui, il est vulgaire. Oui, il est racoleur. Mais bon sang, qu'est-ce qui sort comme affaire ? Qu'est-ce qui sort comme scoop ?
Voilà. Et cela dit, j'ajouterais juste une chose, après je vous donne la parole, c'est que le discours sur la qualité, quand on est journaliste, on l'entendait il y a 50 ans, on l'entendait certainement il y a 100 ans, on l'entendait il y a 10 ans, on l'entendra dans 50 ans aussi, parce que toute personne grandit, évolue avec ces médias et devient aussi plus exigeante. Et vous-même, vous consommez l'information autrement aujourd'hui qu'il y a 50 ans, et peut-être que si vous écoutiez le journal de la radio romande il y a 50 ans, vous trouveriez ça affligeant, extrêmement, de très mauvaise qualité, très mal enquêté, etc. Donc c'est parce que vous avez aussi évolué, vous avez de nouveaux outils de communication tous les jours, vous avez accès à énormément d'informations, vous avez accès à Wikipédia, qui n'existait pas il n'y a pas si longtemps, donc vous êtes vous-même beaucoup plus informé, vous êtes donc beaucoup plus exigeant avec les journalistes. Et vous avez bien raison, et je pense que c'est bien que les lecteurs et les auditeurs soient de plus en plus exigeants avec les journaux et les médias. Et c'est en faisant de mieux en mieux notre travail qu'on arrivera à les satisfaire. Mais je pense qu'il y a un biais aussi de lecture avec ça. Cela dit, on va vers une segmentation du marché et c'est évident que les chaînes de télévision ont besoin d'attirer les lecteurs. Donc il y a de plus en plus de spectateurs, donc il y a de l'infotainment, ça c'est évident. Mais maintenant, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas aussi des problèmes de qualité, des chaînes aussi financées par l'argent public qui se défendent avec des problèmes de qualité.
Voilà. Intervention de monsieur.
Non, vous avez parfaitement raison, mais là, vous parlez d'émissions ou de choses qui sont précisément liées à l'information. Alors, les journaux télévisés, sur les chaînes, en principe, ils sont relativement bons. Les émissions qui sont consacrées pour les consommateurs ou pour les émissions culturelles, c'est bon. Mais le problème de la télévision, c'est de mettre les imbécilités à l'heure de grande écoute. Et alors, les jeunes, ça ne les intéresse pas, donc ils ne se formeront pas. Et puis les personnes âgées, malgré le bien que je pense d'elles, si on les abrutit pendant des années durant, ce n'est pas elles qui vont avoir un esprit critique. Alors la télévision, effectivement, c'est vraiment pas sérieux. Maintenant, je me suis demandé si vous n'avez pas mis le débat aussi un petit peu trop haut. Parce que vous êtes tous des professionnels, vous connaissez bien les sujets, et puis vous parlez de tout un tas de choses, mais avez-vous demandé à l'Assemblée combien il y en avait qui connaissaient Largeur, qui connaissaient Mediapart, qui connaissaient Rue 89, qui connaissent toutes ces émissions? Je suis sûr qu'il ne doit pas y en avoir beaucoup. Alors, si on parlait, par exemple, d'un média proche de nous, ne serait-ce que l'Express ou l'Impartial. Là, ça serait intéressant de savoir pourquoi ils ont de la peine et pourquoi ils fonctionnent mal.
D'accord, je crois qu'on a bien compris votre avis.
Voilà.
Moi, j'aimerais recentrer un petit peu le débat de toute façon.
Parce que vous dites que c'est un débat, mais j'ai entendu que trois personnes prennent la parole.
Oui, mais si vous laissez la parole aussi, monsieur,
vous avez discuté entre vous comme des professionnels. Ça a passé au-dessus des têtes de la moitié de l'Assemblée. Je mets ma main au-dessus.
Je crois, monsieur, on a bien compris votre opinion. Moi, j'aimerais recentrer encore sur un deuxième volet, qui était le volet principal, c'est-à-dire le journalisme participatif. Ce matin, vous étiez, Luc Debrenne et Gabriel Sigrist, invités de Médialogue. Vous avez évoqué ils avaient intitulé « Le journalisme participatif est mort ». Moi, ça m'a bien embêté parce que c'était vraiment le thème qu'on voulait lancer ici. Et j'aimerais bien qu'on y revienne un peu. Est-ce que vous, dans vos médias respectifs, dans vos expériences, donc on a la chance ici d'avoir Baptiste Unkeler, qui vient de médias purement participatifs, qui vient de monter, qui a pu monter ce projet de web radio parce que justement les technologies d'aujourd'hui permettent d'avoir accès facilement à un public sans passer par les médias traditionnels. Et j'aimerais savoir, donc, il l'a dit tout à l'heure, c'est l'espoir d'être un tremplin. Mais au-delà de ça, il y a aussi le fait que vous êtes membre du Parlement des jeunes. Donc, c'est en période électorale, hein, je vous le rappelle. Donc, c'est peut-être pas un hasard non plus si ça vient à ce moment-là. Il y a quand même une part très, très intéressée derrière ce projet.
On n'y a pas du tout pensé. D'ailleurs, on a eu très peu de candidats qui sont venus parler à la radio. Mais oui, donc, c'est une radio avec 100% de bénévoles. Mais en même temps, on n'a pas voulu lancer quelque chose en lançant les gens dans la nature qui parlent un peu comme ils veulent, de ce qu'ils veulent. On a été vraiment cadré. Ça fait quand même, on a fait environ six mois pour préparer ça au niveau technique, mais aussi journalistique, où toutes les personnes qui parlent à la radio ont eu, donc les présentateurs ont eu une formation journalistique. Donc ils savent comment parler, comment aborder un thème, comment faire avancer un débat. Donc c'est participatif, mais il y a quand même une base derrière.
Et comment vous vous y êtes pris très concrètement
Pour la formation?
Oui, pour la formation.
Alors on a demandé à un journaliste qui a travaillé à la RTN et maintenant à Canal Alpha, qui est venu nous expliquer comment faire en fait. Donc c'est vraiment, je pense qu'il faut un journaliste participatif, mais il faut quand même qu'il y ait des bases et un cadre autour assez strict quand même pour pas que ça parte n'importe où. Il y a déjà le cadre légal, mais il est assez faible. Donc voilà.
D'accord, merci de ce témoignage. Moi, j'aimerais aller encore plus loin. Il y avait ce cas la semaine dernière où on a reparlé du Huffington Post. Peut-être qu'on pourrait évoquer un peu cette plateforme ensemble. Moi, je dois dire, très honnêtement, j'ai appris son existence la semaine dernière. Donc, je ne savais pas que ça avait une telle ampleur et un tel succès aux USA. Alors, je crois que Luc Debrenne pourrait nous résumer de quoi il s'agit.
Oui, pour remplacer le contexte, c'est effectivement le numéro 1 de l'information en ligne aux États-Unis, n'est pas le plus fameux journal, le New York Times ou un autre. C'est un site qui a été créé en 2005 par une femme d'affaires qui s'appelle Arianna Huffington. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a inventé un modèle de site d'information qui fait recours à des journalistes professionnels très, très qualifiés, qui sont très correctement payés, mais aussi à une espèce d'armée de blogueurs qui, eux aussi, dans leur propre domaine, sont très qualifiés
mais eux qui travaillent gratuitement. Elle, son modèle, c'est le modèle Wikipédia. Elle se dit, si il y a des encyclopédies en ligne qui se créent avec des gens qui travaillent gratuitement, et ben pourquoi pas le faire. C'est un succès massif d'information, et la nouvelle est qu'ils vont, à la mi-novembre, sortir un équivalent en français. Le journal Le Monde, sentant le vent venir, s'est allié avec ce site, Huffington Post, pour créer un site d'information sur Internet en français à partir de la mi-novembre. Il y a eu un épisode il y a maintenant quelques mois lors du rachat de ce site Huffington par le géant d'Internet qui s'appelle AOL, qui a racheté pour 315 millions de dollars ce site d'information. Et là, tout d'un coup, l'armée de blogueurs s'est rebellée en disant... Mais quand même, vous gagnez 315 millions de dollars, ça va dans votre poche, et nous qui travaillons gratuitement, on n'a rien. Donc on va se mettre en grève. La grève n'a pas duré longtemps, il n'y en a que quelques-uns qui ont effectivement cessé leur collaboration, parce que quel est leur avantage à ces blogueurs ? C'est qu'ils ont une formidable plateforme pour faire valoir leurs informations, leurs points de vue et leurs propres noms. Et donc, ils ont cette caisse de résonance extraordinaire, des dizaines de millions de lecteurs, et pour eux, c'est tout bénéfice. Le problème actuel avec ce site, qui va bientôt nous arriver en français, c'est que tout est mis à niveau. Vous avez le point de vue de l'expert qui est de très haute qualité, celui du journaliste professionnel qui a fait une enquête. Vous avez aussi le blogueur qui se donne sa propre opinion sur quelque chose. Et vous avez aussi des communiqués de presse qui sont là, à peine déguisés, et tout est au même niveau. Et le lecteur moyen, même si on l'a décrit comme plus critique, comme plus, il peut y avoir là des confusions. Et donc cette espèce de pour tout, formidablement efficace, est un nouveau modèle qui est en train un peu de faire florès et d'arriver dans le monde francophone.
Oui,
c'est un site gratuit, absolument.
Et scalargeur.com, on n'a jamais été tenté de faire ce genre d'expérience, d'employer à côté d'une petite rédaction, d'employer une armée de blogueurs gratuitement.
Je crois que le rêve de tout éditeur est de fabriquer un journal sans journaliste, mais nous, on n'a jamais pris cette direction, ou de ne pas les payer. Ouais. Je crois que alors nous, nous n'avons jamais appliqué ce modèle, mais ce qu'on voit sur Internet qui est intéressant, c'est qu'il y a énormément de spécialistes. Je veux dire, il y en a dans cette salle, on a un expert des médias publics, on a des mathématiciens, peut-être des spécialistes en gastronomie qui connaissent tous les restaurants de la région. On a énormément de spécialistes dans cette salle qu'on ignore. Et sur Internet, il y a la possibilité que ces spécialistes passionnés par un sujet communiquent par plaisir sur ce sujet et vont faire le tour de cette question tous les jours et mettre beaucoup d'énergie et beaucoup de soins pour communiquer de l'information spécialisée qui va devenir à un moment ou à un autre une information à haute valeur ajoutée. On le voyait la semaine passée dans le secteur de la mode, par exemple, il y avait la Fashion Week à Paris. Vous avez des dizaines de blogueurs qui sont passionnés de mode, qui vont suivre la Fashion Week, qui vont prendre des photos, qui vont décrire tout ce qu'ils ont vu, qui vont être critiques, qui vont aussi amener un regard. Et finalement, certains blogs sont devenus aujourd'hui des institutions qui sont aussi suivies que Vogue Magazine. Donc, vous avez une concurrence qui se fait entre ce qu'on appelle les pro-ams aux États-Unis. Donc, c'est des amateurs qui travaillent comme des professionnels, donc qui n'ont pas besoin d'être payés, mais qui font un travail qui est équivalent à celui des professionnels. Et ça pose une vraie question après aux journalistes de mode en question de se dire, mais qu'est-ce que moi j'ai comme plus-value par rapport à cet amateur qui travaille gratuitement ? Qu'est-ce que moi je peux amener de plus ? Et là, il y a toute une interrogation qui doit s'amener, pas seulement dans la presse lifestyle, mais dans tous les domaines. C'est-à-dire, les journalistes, maintenant, ils ont comme concurrents aussi beaucoup de spécialistes partout qui s'expriment sur le Huffington Post, sur Facebook, sur leur blog, sur leur plateforme, qui amènent des photos, des visuels, beaucoup de choses. Alors, que doit faire le journaliste dans ce contexte-là ? Eh bien, il doit réfléchir sur sa plus-value. Qu'est-ce qui peut amener lui de plus que ce blogueur ? Alors, il ne peut plus simplement décrire la réalité. Il ne peut plus seulement décrire ce qu'il a vu dans le fashion show en question. Il doit amener quelque chose de plus. Interroger une personne qui est sur place. Interroger le créateur. Enquêter sur qu'est-ce qui s'est passé exactement dans l'histoire de cette marque. Il doit apporter quelque chose de plus. Ou un regard critique ou une narration. Et là, on en vient aussi à ce qu'un journaliste peut aussi apporter, c'est la qualité du récit, la mise en scène, comment est-ce qu'on accroche son lecteur, qu'on le prend par la main, qu'on lui donne envie de lire en entier un article. Tout ça, c'est aussi quelque chose qui est un métier, un travail de professionnel. Et en fait, tout ceci pour dire que cette concurrence-là, elle est aussi bénéfique parce qu'elle contraint, elle force les journalistes à aller vers la qualité. Donc, elle nous tire tous vers le haut, si on peut le dire ainsi.
Bon, elle en tire aussi certains par le bas, parce que j'étais frappé le même jour, pour prendre l'exemple toujours qu'on citait du Huffington Post, le jour où il y a eu l'annonce de la création en français de un équivalent du Huffington Post en français, le journal France Soir annonçait qu'il cessait complètement la parution du journal sur papier et qu'ils allaient, faute de mieux, n'exister plus que sur Internet. Mais comme symbole de transition, on ne peut pas imaginer, François, je ne sais pas si certains d'entre vous le connaissent, mais c'était une légende de la presse européenne. C'était un très grand titre qui, lorsque, je ne sais pas, il annonçait la mort du général de Gaulle en 1970, c'était 2 millions d'exemplaires qui se retrouvaient dans la rue. C'était quelque chose de massif. C'était un rédacteur en chef qui s'appelait Pierre Lazareff, qui était une autorité du journaliste mondial, qui a édicté des règles qui répétaient sujet, verbe, complément, des phrases courtes et tout, qui ont été reprises ou entendues un peu partout. Et ben voilà, le jour même où on annonce la création en français du Huffington Post, qui est un modèle, moi je trouve, un tout petit peu bizarre, dangereux, mais bon, peut-être à tort, on annonçait la fin en gros de François. Et symboliquement, je trouve que c'était quand même déstabilisant. Voilà.
Des réactions, des compléments. Oula. Exprimez-vous. Vous êtes libre. Oui, monsieur au fond. Alors,
Est-ce que le journal était déjà mort, qu'il a acheté, il a engagé des journalistes qui étaient payés très cher, qui étaient des journalistes un peu esquis. Donc il ne faut pas rêver, le journal est déjà mort.
Il est mort il y a 15 ans, exactement, lorsqu'ils ont changé et tout. Moi, je parlais du François qui a été créé en 1946 pour des raisons essentielles. Voilà. Donc il ne faut pas non plus trop tirer sur l'ambulance. Excusez-moi.
Moi, je voudrais revenir par rapport au problème d'investigation. C'était aussi dans le titre du libellé du café de ce soir. Est-ce que l'Internet va complètement tuer le journalisme d'investigation ou au contraire, peut-être que ça va le raviver parce que justement, on a à disposition une quantité innombrable de sources aujourd'hui.
Bon, on va se compléter l'un l'autre, mais l'investigation, c'est de l'argent, c'est du temps, c'est des moyens, et donc actuellement, l'heure n'est pas à l'investigation. Sauf quand on a les moyens, par exemple, de la TSR, qui, je vous le signale quand même, est une des dernières chaînes publiques européennes à avoir à 20h30 un magazine d'enquête qui s'appelle Temps Présent, où ils passent des mois en tournage, chaque reportage coûte des fortunes, et donc ils persistent, ça marche, c'est toujours des très bonnes audiences, et il y a cet effort. Et pourquoi il y a cet effort? Je trouve intéressant quand même de réfléchir, parce que c'est nécessaire. C'est nécessaire d'avoir des enquêtes sur les assurances maladie, de savoir comment ça fonctionne, quels sont les lobbies, parce que c'est essentiel au débat démocratique. Cela dit, dont les journaux, dans la presse, ont difficulté. Il est vrai que de voir partir un enquêteur, un journaliste pendant 3 mois, 4 mois sur un sujet d'enquête, c'est plus guère possible. Donc il faut aller plus vite. Mais bon, voilà, il y a un tel besoin qu'il y a des solutions qui se créent. On a parlé de Mediapart, on a parlé aussi de sites aux États-Unis. Prenez l'exemple de Politicos. Il y a des sites aux États-Unis d'enquêteurs. Et par qui ils sont financés ? Ils sont financés par des groupements philanthropiques qui ont pour objet, pour but de, justement, défense de la démocratie. Ce sont des gens désintéressés qui donnent de l'argent à de telles structures pour qu'il y ait des enquêtes. Et ces enquêtes, après, sont revendues à des grands journaux. On a là, à la fois, l'indice d'une nécessité, il faut qu'il y ait des enquêtes, mais aussi celui d'une grande difficulté qui est celui des ressources.
Oui, absolument. Et je crois que c'est pas parce que c'est sur Internet que ça doit être de mauvaise qualité, comme on le disait avant. C'est vraiment pas l'outil qui est en question, mais c'est vraiment le modèle économique. Et je crois que ce qu'on n'a probablement pas assez évoqué ce soir, c'est vraiment la logique économique. Comment faire vivre le journalisme aujourd'hui? On a eu des gens qui disaient que la presse locale, par exemple, va moins bien qu'avant, elle est de moins bonne qualité, mais elle est moins bonne qualité aussi parce qu'elle n'a plus les petites annonces, parce qu'elle n'a plus les annonces immobilières, parce que ses tirages ont baissé, parce que son lectorat jeune génération passe beaucoup de temps devant son téléphone ou devant sa télévision ou devant Internet et donc n'achète plus les journaux. Donc il y a moins de lecteurs, donc il y a moins d'argent. Et on oublie qu'il y a beaucoup de titres d'autrefois, et François est un très bel exemple aussi de cette sorte de d'échéance, si on peut dire, dont le modèle n'a pas réussi à survivre. Alors il s'agit de trouver des nouveaux modèles aujourd'hui. Et c'est vrai qu'il y a des initiatives intéressantes. Alors Huffington en est une, on verra ce que ça donne. Salon.com aux États-Unis en est une, Mediapart en est une.
Qu'est-ce que c'est, Salon.com ?
Arrêt sur image, c'est aussi un magazine online financé par la publicité et par aussi des associations, des initiatives caritatives, si on peut dire, ou en tout cas de volonté d'aider des médias indépendants. Donc, il y a des modèles à trouver, mais c'est vrai qu'il y a un danger parce qu'il y a une triple crise qui touche notre industrie, une crise conjoncturelle parce que les investissements en marketing, quand on est dans des périodes de crise, baissent, donc il y a moins de publicité. On a une crise, structurelle parce que les gens passent de moins en moins de temps à lire les journaux parce qu'ils ont toujours un iPhone dans la poche, donc ils envoient des SMS, ils font d'autres choses de leur temps, tout simplement. Donc il y a moins de temps de cerveau disponible pour lire les journaux ou pour regarder ou de consommer des médias. Et puis, on a une crise générationnelle, je dirais aussi, avec des changements de comportement, des changements d'attitude par rapport aux journaux et par rapport aux médias traditionnels, qui fait qu'il y a de nouveaux modèles à trouver dans la rentabilité des médias.
Justement, puisqu'on a quelqu'un de la jeune génération ici parmi les intervenants, quelle est votre consommation, elle, des médias? Comment est-ce que vous vous informez?
Elle est énorme par Internet, tout simplement. Rien que pendant les cours, quand on a une petite absence ou quelque chose comme ça, on va actualiser les sites d'information pour savoir ce qui se passe dans le monde, que ce soit TSR ou local, ou etc. Donc il y a beaucoup d'informations, mais je pense que ça ne va pas concurrencer le journalisme d'investigation et le journalisme participatif non plus. Parce que, bah, par exemple, le Neugevox, on est bénévole, donc on n'a juste pas le temps de faire du journalisme d'investigation. On a l'envie, mais on n'a pas le temps. Donc je ne pense pas que ça va concurrencer le journalisme d'investigation. Mais certains ont le temps, ils le font. Donc je pense que ça va permettre, c'est une concurrence qui va permettre de stimuler les journalistes actuels d'investigation pour justement augmenter la qualité. Et ça, donc je pense que c'est une concurrence qui est bénéfique pour tous.
Il y a des réactions dans la salle par rapport à cette question. Oh là là, mais... Ah, Madame Dalzotto. Oui, Madame Dalzotto.
Je voudrais seulement vous demander si peut-être que les médias devraient avoir un peu plus de courage, parce que je pense que... Alors, je suis d'accord avec vous que je ne suis pas tellement d'accord avec cette étude sur la qualité des médias. Je pense que c'est... assez difficile même de définir qu'est-ce que c'est la qualité en journalisme. Hein. Je pense qu'on peut dire, on peut peut-être la mesurer avec des mesures un peu surrogées, c'est-à-dire on peut voir combien de temps les journalistes investissent dans une enquête, comment ils se développent et comme ça. Mais c'est difficile de prendre des critères ou d'analyser un journal et dire ça c'est une bonne qualité et ça c'est pas une bonne qualité. Ça c'est une première chose. Alors je pense que si vous pensez, comme j'ai entendu ce soir, que... Alors, les journalistes doivent avoir le temps pour faire des bons journalismes. Ils doivent. Alors, c'est toujours un problème d'argent. Et je pense que les lecteurs, enfin, sont prêts maintenant à payer pour ça. Et je ne pense pas que vous avez. Que vous devez avoir des peurs pour ça. Aussi, je pense que vous devrez le dire plus dans les médias. Vous avez dans les mains le média et vous pouvez le communiquer de plus, faire comprendre à les personnes qu'on ne peut pas avoir des infos qui ont des valeurs ajoutées sans les payer.
Oui, je crois, mais moi, j'aime toujours les exemples. On parlait de ce magazine économique qui s'appelle The Economist, mais une des clés de leur succès, c'est aussi leur courage, leur culot, leur provocation. Regardez les couvertures qu'ils ont faites récemment. Encore une fois, on le retrouve dans le monde entier des économistes. Il y a une couverture avec Sarkozy, où on le voit minuscule sous une espèce de chapeau bicorne comme Napoléon, à côté d'une gigantesque Carla Bruni. Et puis le titre, c'est « Le président qui rétrécit ». Et donc, c'était vraiment, ils n'ont pas aimé du tout. Le bureau de The Economist a été vandalisé à Paris en mesure de rétorsion. Quelques semaines plus tard, ils sortent une couverture sur Berlusconi. Une photo de Berlusconi très content, très arrogant comme ça. Et c'était « The man who screwed the entire Europe » ou quelque chose comme ça. Il faut oser quand même. Il faut oser.
Vous pouvez juste traduire.
Oui, c'était l'homme. Alors, to screw, évidemment, en anglais d'Oxford, comme tous les journalistes d'Oxford, d'économistes viennent d'Oxford, ça veut dire gâcher, ça veut dire. Mais quand un Italien parle un petit peu anglais, lui, ça veut dire ben, on papaouter, ou ça veut dire quelque chose de connoté. Et donc, il le savait très bien. C'est des Anglais, ils sont un peu comme ça. Mais bon sang, il faut avoir un sacré courage. Et je pourrais vous citer d'autres exemples. Mais c'est une clé. Les gens aiment ce culot. C'est évident. Ça fait partie maintenant d'une des conditions clés. Alors, on parlait de la valeur ajoutée, de la qualité, de la fiabilité, mais vous avez parfaitement raison. Le courage, maintenant, fait partie. Jamais un journaliste citoyen dans son coin n'ira, ou très très peu, n'ira à Damas se prendre des coups ou comme ça, ou en Libye et tout. Il faut des journalistes professionnels pour connaître, mesurer les risques et savoir quoi faire dans ce genre de situation. Ça fait partie, c'est une des clés essentielles actuelles, c'est vrai.
Cela dit, moi je suis d'accord avec ce que vous dites aussi sur le fait que les gens sont prêts à payer pour une information de qualité, mais il faut voir qui et combien. On a ici quelqu'un qui est un représentant de la génération future, ou disons qui me succède. Moi, quand j'avais 20 ans, on achetait des journaux, et même quand on était jeune, on achetait des journaux. Lui, à 20 ans, il va sur des sites gratuits, j'imagine qu'il dépense très peu d'argent pour acheter des journaux, et puis il passe son temps sur Internet avec des... Alors, à quel moment est-ce que cette personne, cet individu qui va rentrer dans la vie professionnelle, va un jour se dire « oui, mais moi, je suis prêt à payer pour une information ». Ça, c'est du jamais vu. C'est la première fois qu'on est confronté à une génération qui, tout d'un coup, devra s'interroger si oui ou non, elle va payer pour avoir accès à de l'information de qualité. Nous, on n'a pas eu le choix. On a payé notre redevance parce qu'on recevait un petit papier bilag, puis il fallait payer. Et puis, quand on allait dans un kiosque, si on voulait avoir accès à de l'information, il fallait payer. Là, aujourd'hui, on a une génération qui a été complètement informée gratuitement par des titres, par l'Internet, par des iPhones, etc. Et maintenant, il y a cette grande interrogation. Alors oui, il y a The Economist, oui, il y a Mediapart, oui, il y a de l'information de qualité qui est extrêmement coûteuse, mais qui s'adresse à un infime fragment de la population exigeant. The Economist, c'est un outil de travail pour énormément de gens, donc ça veut dire que c'est des frais en général qui sont payés par l'entreprise parce qu'ils ont un abonnement d'entreprise, parce qu'ils ont besoin des enquêtes de The Economist pour prendre les bonnes décisions. Donc c'est des capitaines d'entreprise, c'est des décideurs, c'est des cadres. Mais ce n'est pas monsieur et madame tout le monde. Donc ça veut dire qu'on arrive vers un marché de la presse qui est extrêmement segmenté, avec une presse élitaire, une presse qui est accessible seulement pour les gens qui sont prêts à dépenser cette information, et une immense masse comme ça qui aura accès à une presse gratuite, au fond, ou de l'information gratuite de moins bonne qualité. Et ça, je pense que c'est quand même préoccupant, ou c'est quelque chose qu'il faut vraiment regarder quand on est dans les démocraties modernes, de se dire, bon, comment va-t-on informer l'opinion qui n'est pas prête à payer pour de l'information ? C'est un vrai débat.
Je crois que c'est une interpellation directe, là.
En
ça mérite réaction.
Non, mais alors... je suis peut-être une exception, mais enfin, j'ai toujours lu le journal papier et je me vois mal arrêter de lire le journal papier. C'est vrai que toutes les personnes de mon âge n'ont peut-être pas cet avis. Mais je crois qu'il y a quand même une envie, comme on le disait avant, une certaine légitimité quand on lit un journal qui est payant. Et je pense que ça va continuer même dans la jeunesse, dans le sens où on a été quand même éduqués. Nos parents ont toujours eu un journal papier. Et je crois que c'est quand même dans les habitudes, même s'il y a l'habitude d'aller regarder sur Internet, il y a toujours cette habitude d'avoir le journal fiable et papier qu'on a, ou pas obligatoirement papier, bien sûr, on peut le payer sur Internet. Donc je crois que vous êtes un peu trop négatif sur ce point-là. Je pense que l'évolution ne va pas aller vers un tout gratuit de toute l'information.
Voilà. On prendra encore une dernière remarque et puis après, ça va être l'heure de conclure.
Moi, je vois quelque chose d'intéressant dans le journalisme participatif. On pourrait imaginer que ce soit un premier pas vers le participalisme, c'est-à-dire une reprise du pouvoir par tout un chacun, puisque chacun peut s'exprimer. Une introduction d'un contre-pouvoir, parce que contrairement à ce qui a été dit, le quatrième pouvoir, il existe toujours, hein, forcément, puisque pour nous informer, généralement, on passe par les médias, et donc il y a un pouvoir. Le journalisme participatif pourrait, en fait, avec beaucoup de balbutiements, des choses comme ça, être un élément du participalisme, c'est-à-dire du reprise en main du pouvoir par chacun. Et donc, pour moi, ça pourrait être un élément extrêmement positif.
D'accord, mais comment le canaliser, alors, ce journalisme participatif ?
Bon, je sais pas, moi, je serais tenté de prendre de nouveau un exemple qui est celui de Wikipédia. Quelqu'un récemment me faisait remarquer que Wikipédia, on n'est pas dans le domaine du journalisme ou de l'information, mais c'est la dynamique à l'œuvre qui est intéressante. Me faisait remarquer que Wikipédia, c'est la mort de l'expert. En fait, on avait jusqu'à maintenant, quand on rédige une encyclopédie, un dictionnaire ou voilà, des compétences, des gens spécialisés. Or maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, c'est des constellations de gens spécialisés qui, ensemble, en s'équilibrant, en contestant, en disant « non, je ne suis pas d'accord sur cet article, sur cet élément périodique, pas du tout ». Et on en arrive de proche en proche, avec un équilibrage général, à quand même quelque chose qui est excellent. Mais au lieu d'avoir un expert, la figure de l'autorité qui sait quelque chose, on a en quelque sorte cette pluralité horizontale. Et je trouve très intéressant ce modèle. Est-ce qu'il est applicable à celui de la presse ? Je pense encore une fois, on a dit que cette presse se segmentait, les médias se segmentaient dans certains domaines, on en a cité quelques-uns, je pense que cette dynamique est pertinente. Pour d'autres, à mon avis, elle ne l'est pas, pour des vieilles valeurs qui sont ben, voilà, le travail d'investigation, corroborer les faits, savoir écrire ou ne pas savoir écrire, etc. Et donc, voilà, il ne faut pas l'éliminer, mais je pense qu'il est promis à se développer, je dirais presque à se professionnaliser, même si c'est un paradoxe avec les années.
Oui, je crois que ce que vous avez soulevé, ça montre une notion qui est la démocratie médiatique, en fait, dans le sens où on contredit les quatre premiers pouvoirs, on va dire, non seulement du point de vue des personnes qui écrivent, mais aussi des personnes, des lecteurs, qui peuvent vraiment choisir leurs informations. Et les personnes qui écrivent, ça permet justement de pouvoir donner son avis facilement. Et c'est grâce à ça qu'on va pouvoir contrer certains, comme on a eu il y a quelques années, des fois où on avait un seul avis des pouvoirs et puis on ne pouvait pas vraiment les contredire, en tout cas pas facilement.
Il y a juste un élément qui a changé. Moi, ça fait 25 ans que je fais du journalisme. Je sais pertinemment que si un article paraît et où j'ai fait une erreur, il y a 20 ans, cette erreur était soit pas repérée, soit la personne qui écrivait au courrier des lecteurs, ça arrivait une semaine plus tard, ou plus personne n'y faisait vraiment attention. Maintenant, s'il y a une erreur de fait, d'interprétation ou quelque chose, la sanction est
immédiate. Vous avez un email, vous avez un tweet, vous avez un coup de téléphone également. Et donc, là, ce qu'on disait sur cette surveillance et des gens qui en savent forcément beaucoup plus que vous, ça force à l'humilité, ça force aussi à être un peu meilleur, quoi.
Absolument. Je dirais qu'il y a donc l'exigence du public n'a cessé d'augmenter par rapport aux médias. Donc il y a cette défiance. C'est pour ça que les journalistes sont impopulaires en général. On met en doute ce qu'ils disent et on va vérifier derrière. Mais ce que vous disiez par rapport au journalisme participatif, le problème qu'on a, c'est qu'on se dit toujours quelle peut bien être la motivation de quelqu'un qui va passer du temps pour diffuser de l'information bénévolement. Moi, je vais toujours mettre ça un petit peu en doute. Je me dis, quelqu'un qui passe toutes ses journées pour écrire des articles sur la bande de Gaza, qu'est-ce que vraiment il a envie de nous dire avec ça ? Quelle est sa motivation ? Pourquoi est-ce qu'il est là ? Il y a toujours une interrogation quand même par rapport à ça. Et il y a aussi beaucoup de gens qui sont non seulement... Enfin, il y a évidemment la question de l'activisme, mais il y a aussi la question des perturbateurs. On l'a vu avec Wikileaks. Quelle était la motivation de Julian Assange ? Ben voilà, foutre un peu le bordel. Voilà, ben rien que pour ça, ça peut être une motivation. Donc il y a toujours quelque chose qui va pousser quelqu'un à faire quelque chose de devenir un média ou un agitateur médiatique. Parfois pour sa propre notoriété. Beaucoup de gens maintenant sur Facebook publient beaucoup de choses parce qu'ils veulent se rendre intéressants, ils veulent montrer qu'ils lisent des choses bien, ils veulent montrer qu'ils ont des choses à dire. Donc il y a toujours quelque chose qui peut être un moteur, le narcissisme, ou alors une volonté de bouger les choses, ou un activisme. Mais c'est vrai que le média en tant que tel, le journal, eh bien, il se pondère avant publication, donc il a une motivation qui est d'éclairer son lecteur. Et normalement, il a quand même toujours cette sorte de clé quand même initiale qui va quand même le pousser à maintenir cette qualité éditoriale.
Quoi qu'il y a encore la madame qui a le micro, donc je vous laisse faire.
Il n'y a pas de souci, ce n'est pas une question, c'est seulement un avis personnel d'ordre général. Je suis très contente de cette soirée, d'avoir des professionnels pour les entendre et pour apprendre. Je voulais juste me faire l'avocat du diable par rapport au public. Je ne pense pas tout à fait correct de sous-estimer le public. De toute façon, et puis j'ai beaucoup appris, il y a certaines choses qui m'ont beaucoup parlé. Merci beaucoup de toute façon.
Alors merci beaucoup, je crois qu'il n'a jamais été question de sous-estimer le public, au contraire, oui, je crois qu'on est tous d'accord. D'accord, bon. Mais écoutez, en tout cas, le temps nous est compté. Là, nous avons déjà dépassé un peu le délai. Je vous remercie toutes et toutes de votre fidélité au Café Scientifique. Je remercie encore au passage M. Roland Amsler, qui, sauf erreur, a enregistré donc, ce débat, et on va le mettre en ligne ces prochains jours. Je remercie nos intervenants pour avoir participé à apporter leurs avis avisés à cette discussion. Je vous donne rendez-vous le 16 novembre. Nous parlerons droit, nous parlerons pénal. Sanction pénale, est-ce bien la peine ? Voilà, ce sera tout un programme que je vous invite à découvrir sur les dépliants qui sont encore sur les tables. Et à ma place se trouvera Baptiste Unkeler, qui va animer ce débat le 16 novembre prochain. Voilà, il y a également les programmes de l'année prochaine qui sont déjà à votre disposition. Je vous invite à les prendre pour 2012. Ils sont là. Et je vous remercie et je vous souhaite une excellente soirée. Merci.